Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Thibaut de Chassey au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde. Alors, pour une fois, cette émission ne sera pas diffusée en direct, et je vous prie de m'en excuser, j'en suis coupable. Elle a été exceptionnellement préenregistrée le 16 avril, voilà, donc il y a 2 semaines. Alors, il ne sera donc pas possible de réagir au cours de l'émission. Mais vous pouvez toujours, et c'est toujours apprécié, faire parvenir vos remarques ensuite à mon attention ou à celle de mon invité en écrivant à la radio, par son site internet ou par voie postale. Voilà, alors ce soir nous allons nous concentrer sur un thème, mais c'est un thème riche et vaste et je suis sûr que vous apprendrez des choses intéressantes, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire un petit peu de mon côté. Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Julie Chanoux. Bonsoir, Madame.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes historienne, doctorante, et vous travaillez sur certains aspects de la Révolution française.
Et de la contre-révolution.
Formidable. Et pour les auditeurs qui décèleraient chez vous un léger accent, je veux apaiser leur curiosité en précisant que vous êtes d'origine russe.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai eu l'occasion de vous entendre il y a peu de temps lors d'une conférence, une causerie que vous avez donnée à la librairie française. Et j'étais là, donc, oui, la librairie française à Paris, dans le 15e arrondissement, 202 rue Lecourbe, hein, qui est une des rares librairies qui soit, comment dire, qui ne soit pas tout à fait de gauche, et, ni dans la pensée unique et le politiquement ou l'historiquement correct. Et il y a régulièrement des séances de dédicaces, des événements, et puis aussi des causeries. Et vous avez été invité. Je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Ça m'a donné donc l'idée de vous proposer de venir à ce micro pour partager au plus grand nombre
Je vous en remercie.
les choses que vous avez découvertes à propos de ce qu'on appelle familièrement la fuite à Varennes ou la fuite de Varennes. Mais nous reviendrons peut-être sur cette terminologie. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vous propose de nous remettre un petit peu dans ce contexte de l'époque, ce printemps 1791. On ne va pas refaire toute l'histoire de la Révolution française jusqu'à ce moment-là, mais quel est le contexte, grosso modo, si vous voulez bien?
Donc, le contexte de la Révolution française, la monarchie constitutionnelle est mise en place. La France est encore un royaume, c'est encore une monarchie, mais c'est une monarchie limitée par l'Assemblée nationale, qui est à l'origine des États généraux, qui était transformée d'une manière illégale aux États généraux, et le roi a accepté à négocier avec cette Assemblée. Quelques mois passés, il a aperçu que les négociations ne servent à rien et donc il prend la décision de fuir. Pourquoi? Parce que les réformes qui sont mises en place par l'Assemblée nationale mettent à désordre dans le royaume. Il s'agit d'abord de la réforme municipale qui dérange beaucoup les libertés locales. Il s'agit de la constitution civile du clergé qui installe le schisme dans l'Église. Et il s'agit bien sûr des émissions des assignats qui ruinent la commerce.
Ah, les
Voilà.
assignats. Alors peut-être qu'on pourra en dire quelques mots davantage. Et avant de revenir donc sur ces différents aspects, je me pose la question du travail que vous avez dû mener en vous penchant, en voulant creuser cette question de l'épisode de Varennes. Donc c'est un travail d'archiviste, je pense, de documentaliste, hein, auquel vous vous êtes donné. Comment ça s'est passé? Parce que dans tout travail historique, évidemment, se pose la question des sources et des archives. Comment ça s'est passé dans votre cas?
Donc initialement, je faisais le travail sur le prince de Condé. Le prince de Condé, qui est un prince de sang, un cousin de Louis XVI, qui émigre très tôt en juillet 1689, et il a accompagné de son cousin, frère de Louis XVI, le comte d'Artois, il organise la résistance à la Révolution. Il faut savoir que dès le début, il était très opposé à la Révolution et il émigre à l'ordre du roi, encore en juillet 1789. Et donc voilà, j'ai commencé à faire les travaux sur le prince de Condé. J'ai aperçu que le prince, accompagné de frères du roi, ont élaboré un plan de la fuite encore en juillet 1790, c'est-à-dire un an avant la réelle fuite du roi. Et j'ai aperçu que le plan n'était pas le même que le roi a suivi finalement. Et donc, j'ai commencé à étudier plus approfondi pourquoi on raconte en fait deux plans au sein d'une même famille. Et car j'ai commencé à étudier cette question, que je tirais sur le fil, et j'ai découvert beaucoup d'autres choses dessus de ce problème. J'ai découvert que les princes réfugiés à Turin, qu'on nomme généralement les princes émigrés,
oui,
c'est-à-dire le comte d'Artois et le prince de Condé, ils ont élaboré dès le début plusieurs projets d'insurrection contre-révolutionnaire en France, vu qu'il fallait nécessairement répondre à la désordre qui règne en France. À cette époque, notamment dans le Midi, les désordres étaient provoqués par les Jacobins, qui étaient menés par Mirabeau, par le comte de Mirabeau. Mmh. Et donc voilà, et les troupes étaient désordonnées, les officiers persécutés, les administrateurs locaux, ils étaient obligés de fuir la France. Et c'est les Jacobins qui, peu à peu, s'installent dans le royaume, surtout dans le Midi, en Franche-Comté, en Alsace et à Lyon. Voilà. Et à Lyon, Lyon lui-même est le théâtre des émeutes, à partir de février 1790, c'est-à-dire 6 mois après le début de la Révolution française.
Oui.
Voilà. Et le maire de Lyon, Imbert Colomès, c'est le premier maire de Lyon, est obligé de fuir à Grenoble.
Jacques Imbert Colomès, voilà. Oui, qui était premier échevin.
Voilà, premier échevin, et donc il est devenu le premier maire de Lyon, et il est obligé de fuir à Grenoble parce qu'il fuit les émeutes, parce que sa vie même est en péril. Il revient après dans la ville, il entre en relation avec les administrateurs, les anciens administrateurs de la ville, et il commence à comprendre que la révolution ne fonctionne pas comme c'était prévu. Parce qu'il faut savoir qu'au début, Imbert Colomès a salué la révolution.
Mmh.
Tout comme les administrateurs de la ville. La plupart administrateurs de la ville, ce sont des personnes riches, qui sont bien ancrées dans la vie de la ville, qui représentent souvent les intérêts des manufacturiers, de la fabrique, de soie à Lyon. Lyon vit grâce à soie et grâce au commerce de soie. Et il faut savoir que Lyon, c'est une ville bourgeoise. Elle n'est pas tellement noble. Et c'est peut-être un petit peu étonnant qu'une ville si bourgeoise, il y a seulement 5% de la population qui est noble et qui se prononce d'une manière si ouverte et claire pour la contre-révolution. Et déjà à oui. partir de juillet 1790. C'est-à-dire qu'au moment où Imbert Colomès revient dans la ville pour entrer dans les relations avec les administrateurs de la ville, pratiquement toute la ville elle est déjà contre la révolution. Oui. Alors qu'il y a encore quelques mois, les gens saluaient la révolution. Pourquoi ? À cause de la constituante. C'est à cause de ces réformes qui étaient mises en place que la ville aperçoit que ça devient invivable. Et c'est pratiquement toute la ville qui compte la révolution, non seulement les administrateurs locaux, non seulement les manufacturiers, il y a aussi les ouvriers qui ont perdu leur travail. Parce que les fabriques ferment. En fait, pratiquement toutes les manufactures ferment à cause des circulations des assignats. Les assignats, cet argent en papier.
On va parler un peu des assignats.
Voilà,
c'est
les assignats, l'émission des assignats était donc votée en novembre 1789. Elle était garantie par les biens de l'Église qui étaient mis à même mot sur le marché, qui ont perdu beaucoup de leur valeur.
Et
voilà, la spoliation des biens du clergé qui entraîne aussi donc l'émission des assignats, mais qui perd aussi rapidement leur valeur à cause de trop grand nombre de biens qui étaient mis sur le marché, ce qui bien évidemment diminue leur valeur, ou peut-être même annule leur valeur. Voilà, mais c'est un volet de problème. L'autre volet, c'est que les paysans refusent tout simplement d'accepter l'argent en papier. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, oui. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, et donc on leur propose, imaginez-vous, payer en papier, et ils n'imaginent pas qu'est-ce que c'est, ils le refusent. Donc les denrées alimentaires sont difficiles à trouver.
C'est le problème de la confiance.
Voilà,
dans le
c'est le problème de la confiance, et d'un coup, on constate la hausse de prix du pain. Oui. Bien évidemment, et ça. Ça provoque des mécontentements déjà très importants. Puis la mise en place de la constitution civile du clergé, ça provoque tout simplement, non seulement c'est le schisme qui est installé dans l'Église, c'est-à-dire qu'est-ce que la constitution civile du clergé ? Elle est votée en juillet 1790, c'est-à-dire au moment des réels troubles à Lyon, aussi dans le Midi, aussi en Franche-Comté, en Alsace, surtout en Alsace, les gens sont attachés à la religion, à leurs prêtres, ils aiment leurs prêtres. Et voilà, la constitution civile du clergé, proposée par l'Assemblée nationale, prévoit que les prêtres maintenant sont élus. Ils sont élus par les fidèles, et non seulement par les fidèles, mais aussi par les protestants et même les non-croyants. Voilà. Et les évêques aussi. Bien évidemment, c'est un schisme. Et le pape Pie VI, à cette époque, le pape Pie VI, donc, il déclare aussitôt que la constitution civile est schismatique. Et
oui, la condamne très vigoureusement.
Très vigoureusement, par une bulle qui est cachée d'ailleurs. Elle est cachée jusqu'en janvier 1791. Et c'est que le cardinal de Rouen qui accepte à afficher la bulle papale sur toutes les portes de l'église d'Alsace. Il est évêque de Strasbourg, donc il accepte de le faire. Donc on cache l'existence de la bulle papale.
Et alors, les révolutionnaires exigent des prêtres qu'ils jurent fidélité à la Constitution. Voilà, donc, ils seront surnommés les prêtres jureurs par opposition à ceux qui refusent, en prenant des risques. Hein, ils sont courageux, les prêtres dits réfractaires.
Tout à fait. Et donc,
et c'est important parce que ça reviendra peut-être au fil de l'histoire. Hein. Ouais, la famille royale, notamment, aussi, c'est important.
Oui, c'est bien évidemment. Louis XVI est un sincère croyant.
Pas seulement pour les Chouans, hein, mais. Et pour le petit peuple rebelle et résistant. Mais,
bien sûr, Louis XVI est un sincère croyant.
Un vrai schisme.
Il est gêné par être à l'origine, au moins accepté, installer le schisme de l'Église. D'autant plus que le pape condamne avec vigueur ce schisme. Donc imaginez-vous la situation de Louis XVI.
On se souvient qu'à la veille de sa mort, Marie-Antoinette avait refusé d'avoir, pour les derniers sacrements pourtant, d'avoir qu'on lui amène un prêtre jureur.
De jureur, voilà. La plupart des prêtres réfractaires rejoignent les princes à Turin, les princes émigrés. Et Imbert Colomès, bien évidemment, le maire de Lyon, entre en relation avec les princes émigrés, mais aussi avec les prêtres réfractaires. Donc le nombre est très important à Lyon, mais aussi dans le Midi. Par exemple, en Aix-en-Provence, aussi, il y a beaucoup de prêtres qui sont persécutés, tout comme les officiers de l'armée, qui sont persécutés par leurs soldats, avec l'acceptation silencieuse de l'Assemblée nationale. Donc vous imaginez quelle situation règne en France déjà en été 1790, bien avant la vraie terreur. Et avec tout ceci, on constate aussi le déclenchement des persécutions contre les catholiques dans le milieu de la France, déjà d'une manière plus vigoureuse, par exemple les massacres à Nîmes. Il faut évoquer de juin 1790 qui est déclenché par les protestants sous prétexte de complot des catholique de la ville contre la Révolution. Et plus de 800 catholiques sont morts au cours de ces trois jours de massacre. Voilà, ils sont arrêtés que par l'armée.
Une sorte de résurgence des guerres de religion dans le Midi. Voilà, on voit que le Midi blanc et le Midi rouge, on distingue bien une certaine filiation.
La terreur avant la terreur. C'est-à-dire avant la grande terreur de 14-13. Il y a déjà une mise en place de la terreur. Puis, il faut évoquer aussi le fonctionnement des comités de recherche, installés aussi par l'Assemblée nationale. Oui, déjà à cette époque, en 1790, vous risquez d'avoir des persécutions chez vous, tout simplement parce que vous êtes dénoncé par votre voisin comme quelqu'un qui collabore avec les contre-révolutionnaires, avec les gens du Midi, avec les princes émigrés. Et à ce moment, c'est l'Assemblée qui juge. Est-ce que vous êtes coupable ou non? C'est-à-dire que l'Assemblée nationale s'attribue de son propre chef, à nouveau, le pouvoir de vous juger ou de ne pas vous juger ou de vous défendre. C'est-à-dire qu'il s'attribue tous les pouvoirs judiciaires, étant à la fois accusateur public, votre juge, et aussi à votre avocat au même moment. Donc, ce qui est inacceptable. Donc, imaginez-vous quelle situation vit la France. Et Louis XVI constate tous ces changements importants.
Ouais.
Tout comme les administrateurs locaux constatent aussi ces changements. Louis XVI, en juillet 1789, en acceptant les négociations avec l'Assemblée nationale, Louis XVI espérait à redresser la situation, tout simplement. C'est pour cette raison qu'il a accepté de venir à Paris, de négocier avec l'Assemblée nationale et donc n'y pas avoir recours à des moyens plus violents, comme par exemple l'emploi des troupes. Il pouvait à cette époque encore employer les troupes et arrêter les révoltes qui étaient surtout violentes à Paris. Voilà, parce que les provinces étaient beaucoup plus calmes. Hein. C'est surtout à Paris. Paris, à cette époque, c'est le foyer de la Révolution. L'esprit révolutionnaire est très fort, surtout à Paris, dans les troupes qui sont stationnées à Paris, notamment dans les gardes françaises. Voilà, qui étaient fort probablement achetées par l'argent du duc d'Orléans. Selon les témoignages de l'époque.
Et puis une certaine
de Lafayette, de Lamette aussi, oui, oui. Oui. Du général de Lafayette, qui est devenu aussi par la suite le chef de la garde nationale de Paris, qui oui. était composé de ces mêmes troupes révolutionnaires, voilà, et de Lamette, des frères Lamette, qui sont ses bras droits en fait, qui aussi propagent de l'argent dans les troupes et qui essaient de les acheter afin de les faire agir pour le compte de la révolution, tout simplement.
Mmh.
Voilà. C'est pour cette raison qu'il y a un tel désordre qui règne dans les troupes françaises et que les princes essaient de le reprendre en main. Surtout Condé, qui est un des chefs militaires de Bourbon. Condé, c'est un Bourbon et qui participait à plusieurs batailles, à les guerres. C'est un général qui connaît bien les troupes françaises et ça le choque, bien évidemment, la situation qui règne dans les troupes. Imaginez-vous, les troupes françaises qui sont devenues les troupes à vendre et donc à acheter.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est fou.
Voilà.
Très bien. Écoutez, bon, on a déjà un petit peu brossé une partie du tableau. Mais je voudrais, si vous voulez bien, qu'on revienne sur, pour faire un peu les choses dans l'ordre, en tout cas, j'essaie, qu'on revienne un peu sur votre travail dans les archives. Ça m'intéresse. Où avez-vous trouvé des informations ? Là, vous êtes allé en Autriche, en Grande-Bretagne, et vous avez peut-être même trouvé des archives inédites.
Oui,
dites-nous un peu.
J'ai cherché beaucoup. En fait, j'ai commencé par faire des recherches aux archives de Chantilly, qui est un château qui appartenait au prince de Condé. Et j'ai trouvé beaucoup de pistes de recherche qui m'ont amené à chercher dans les archives de Vienne. Je me suis rendue à Vienne, donc dans leurs archives d'État, et j'ai commencé à consulter les archives de comte de Mercier Argenteau, qui est peut-être reconnu à vos lecteurs parce que c'était un ambassadeur autrichien en France à l'époque de Marie-Antoinette. Voilà. Et normalement, il était présenté par les historiens comme un ami de Marie-Antoinette, son conseiller proche et quelqu'un qui essayait de sauver la reine. Mais quand j'ai commencé à consulter sa correspondance avec le chancelier Kaunitz et avec l'empereur Léopold II, j'ai découvert qu'il a eu le recours à des manipulations en partant pour tromper la reine. Pour tromper la reine et pour l'attirer, soit de le forcer à travailler pour le compte de l'Autriche, tout simplement, pour le compte du Saint-Empire, sinon de l'attirer dans le piège, où il serait obligé, d'une manière ou de l'autre, d'agir pour le compte du Saint-Empire, dans les intérêts de l'Autriche, en fait.
Bon, mais c'est capital, effectivement. Ouais.
Voilà. Et tout ceci à son insu, voilà, ce qui est encore plus grave.
Ouais. Bon, très bien. Donc des recherches à travers l'Europe.
Voilà, donc j'ai consulté d'abord les archives de Vienne. Il faut savoir que les archives de Vienne sont très riches. Hein. Et il y a des milliers et des milliers de cartons. Et la correspondance de comte de Mercier Argenteau est très importante. Il faut passer des jours pour l'étudier et pour établir vraiment une sorte de schéma cohérent et déduire une logique cohérente qui systématiquement aboutit à des mêmes conclusions.
Mmh.
Le comte de Mercier cherchait à tromper Marie-Antoinette et de l'instrumentaliser.
Mmh.
Et il aussi instrumentalisait les constitutionnels français avec lesquels, en fait, il maintenait des relations.
Oui.
Voilà.
Florimond de Mercy Argenteau.
Voilà. Voilà.
Pas très connu, mais il a eu un rôle important.
Voilà. Et après, ouais. Donc, les pistes de recherche m'ont amené à Londres, bien évidemment, pour chercher aussi dans les correspondances de l'ex-contrôleur général Alexander Calonne, ministre des Finances de Louis XVI, avant la Révolution.
Calonne.
Voilà. Et principal opposant de Necker. Voilà. Et donc, il faut savoir que ce ministre d'État passe du côté de la contre-révolution et il entre en correspondance avec le comte de. Avec le comte d'Artois, qu'il aime, qui le nomme même son propre conseiller, et il maintient aussi la correspondance avec le prince de Condé. Voilà. Et donc, dans la correspondance de Calonne, j'ai trouvé aussi beaucoup de documents qui traitent de la fuite à Varennes. Par exemple, j'ai découvert que Calonne, à la demande d'Artois et de Condé, préparait un projet de la fuite à partir de juillet 1790, qui par la suite sera repris par Mercy, mais dans le sens opposé. Voilà.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc, ce qui m'a.
Voilà, très intéressant.
Ce qui a abouti à la découverte de deux projets de la fuite, en fait. Voilà.
Oui.
C'est à Londres que je trouvais, en fait, le.
Charles-Alexandre de Calonne.
De Calonne, voilà. Le prof d'existence de deux projets. Voilà.
Qui était donc le contrôleur général des finances et que Louis XVI avait dû remercié en 1787 devant voilà. son impopularité.
Tout à fait.
Il l'avait exilé à Londres, sa province, et puis il avait fui à Londres. Voilà. De peur d'être arrêté ou d'avoir d'autres problèmes.
D'où il réside au moment de la Révolution. Et donc c'est pour cette raison que c'est à Londres qu'il commence à agir. Et tout d'abord à la demande du comte d'Artois et de Condé, qui tout simplement le charge d'obtenir la neutralité du gouvernement britannique, qui sinon, pour profiter de la situation qui règne dans l'armée française, pour attaquer. Voilà, donc c'est, au début, la mission de Calonne, ça revient à ça, obtenir la neutralité, s'il n'y a pas l'aide du gouvernement britannique ou moi, la neutralité de Pitt pour qu'il n'y intervienne pas, pour qu'il n'y profite pas. Parce que les côtes françaises, côtes ouest à cette époque, sont complètement dégarnies. Les troupes sont en désordre, donc pourquoi ne pas attaquer?
Oui, bien sûr. Oui. Alors pour en revenir au prince de Condé, donc, qui est la figure majeure avec le comte d'Artois, futur Charles X, figure majeure des armées contre-révolutionnaires, dites de l'extérieur. Quand est-ce qu'il a commencé à mettre en place son armée? C'est à peu près... C'est peu de temps avant l'épisode de Varennes, au printemps.
C'est déjà depuis... Il faut savoir que les princes émigrent le 17 juin 1789 à l'ordre du roi.
Oui.
Contre-cœur. Il estime que la situation n'est pas si grave que ça pour émigrer. Mais c'est le roi, mal conseillé, par des personnes manipulateurs, voire pervers, tranchons le mot. Donc il est mal conseillé et donc il accepte de négocier avec l'Assemblée nationale, même si Condé estime que ça n'y sert strictement à rien. Donc il ordonne à son frère et à son cousin, qui sont déjà trop compromis parce qu'ils ont déjà clamé contre la révolution bien avant le début des États généraux. Ils ont déjà prévenu le roi que la situation dégrade, encore en hiver 1788, c'est-à-dire 6 mois avant la Révolution. Et donc, il est obligé, ou contraint, si vous voulez, de les envoyer en exil. Voilà. Et les princes sont obligés à aller à Turin. Ce n'est pas une ville trop importante, vous voyez, pour faire vraiment la contre-révolution. Turin, c'est une capitale de petits royaumes de la Sardaigne, de Piémont, si vous voulez. Mais il possède quelques avantages. Le roi de Piémont, c'est à Bourbon, Victor Amédée III. Et puis, le roi de Piémont, à cette époque, possède le duché de Savoie et le comté de Nice. Et donc, par ces deux comtés, vous pouvez entrer en France facilement. Par la Savoie, vous pouvez entrer en Franche-Comté ou rejoindre Lyon facilement. Par Nice, vous pouvez entrer dans le midi de la France. Voilà. Et donc, cet avantage, les princes cherchent à utiliser. Il entre de le début, encore en arrivant en Turin en septembre 1789, c'est-à-dire 3 mois après la Révolution, le début de la Révolution. Il entre aussitôt en contact avec les chefs de garnison, ce qui est normal parce que Condé connaît absolument tous les officiers de l'armée française, vu que lui, c'est un des chefs de l'armée française. Puis, il connaît très bien les administrateurs locaux parce qu'avant la Révolution, il a déjà cherché à obtenir les réformes dans le sens monarchique et il connaissait très bien les juges des parlements qui sont très influents dans les régions. Et bien évidemment, il connaît les administrateurs locaux. Pourquoi il choisit Lyon? Parce que c'est une ville très importante. C'est une deuxième ville par sa population de royaume à cette époque. Et puis parce qu'il commande toute la région. Si vous voulez agir en Franche-Comté, Lyon va commander toutes les opérations. Si vous voulez agir en Provence ou à Languedoc, il vaut mieux obtenir la collaboration des Lyonnais. Et y compris aussi, si vous voulez, agir en Auvergne. Vous voyez l'importance de Lyon.
Oui, bien voilà. sûr.
Et puis, donc, la situation qui se dégrade si rapidement à Lyon et qui entraîne le bousculement de pratiquement de toute l'administration de la ville, des personnes importantes, mais aussi de classe ouvrière de la ville, de côté de la contre-révolution, bien sûr, incite les princes à poser le regard sur Lyon, bien évidemment, et entrer en correspondance avec les Lyonnais qui, d'eux-mêmes, cherchent à entrer aussi en relation avec les princes émigrés. Imbert Colomès entre en relation. D'abord, il entretient la correspondance secrète et après, il se rend à Lyon, à Turin.
Ah oui.
Il se rend à Turin encore en juillet 1790. Et c'est à cette époque qu'il commence déjà à clamer contre l'Assemblée nationale ouvertement. Il annonce qu'elle n'est pas libre, qu'au sein de cette Assemblée nationale, il y a des factieux qui cherchent à aggraver encore la situation, qui font en fait des complots. Il déclare Louis XVI prisonnier de cette Assemblée nationale. Il propose à réunir les nouveaux États généraux à Lyon.
Oui,
voilà.
Intéressant.
Voilà. Et donc, il renonce aussi, il fait une sorte d'amende honorable, il renonce aussi à son appartenance à la franc-maçonnerie. Il était franc-maçon avant la Révolution, il appartenait à la loge La Parfaite Union avant la Révolution, comme la plupart des administrateurs de la ville. Et à un moment donné, il commence à s'interroger sur la nécessité de continuer à appartenir à cette loge. Voilà. Il publie même publiquement contre l'Assemblée nationale, contre. Donc voilà, contre ce que se fait, ce que se prépare aussi à France à cette époque. Il offre aussi secrètement, bien évidemment, au roi l'asile à Lyon. Ouais. Il propose au roi venir à Lyon. Et c'est à partir de ce moment que le roi et la reine commencent réellement à réfléchir sur le projet de la fuite. Ils ne peuvent pas fuir à Lyon directement, c'est difficile. Pour venir de Paris à Lyon, il faut avoir l'escorte des troupes. Il n'y en a pas vraiment des troupes fidèles fiables sur la route. Donc, ils préfèrent regarder de côté de l'Est parce qu'ils estiment peut-être les généraux qui commandent les troupes à l'Est, ils restaient beaucoup plus fidèles, en tout cas ce qu'on leur dit, au roi que donc, les troupes qui sont stationnées au centre de la France. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de garnisons au centre de la France. C'est ce que vous comprenez. Voilà. C'est pour ça qu'ils tournent leur regard vers l'Est, leur projet d'aller, ce que Calonne leur dit aussi, dans ses lettres secrètes adressées au roi en juillet 1790, ils proposent d'aller d'abord à Chalon-sur-Marne, après à Montmédy, mais sans sortir de la France, et après faire un détour par l'Alsace, par la Franche-Comté, et venir à Lyon de cette manière.
Ah voilà, Lyon voilà. Toujours.
Voilà, toujours à
la proposition de Calonne. Et oui, alors ça aurait été quelque chose de formidable hein, si le roi avait pu atteindre Lyon.
Voilà. Et ce que le roi se propose, c'est à se voir. On n'a pas beaucoup de lettres du roi de cette période. Hein. Pratiquement toutes les lettres du roi, elles étaient brûlées. Elles ont disparu par des raisons quelconques. Voilà. Donc c'est très difficile à établir sa position. Contrairement à la position de Marie-Antoinette, dont les lettres aussi ont disparu en France, mais beaucoup de lettres sont conservées aux archives de Vienne. C'est pour ça qu'il faut aller chercher à Vienne pour savoir qu'est-ce qui se passe en France à cette époque.
Oui, voilà.
Donc pour lire la correspondance, par exemple, de Marie-Antoinette, bien qu'elle est un petit peu biaisée, mais on peut comprendre au moins quel était le projet du couple royal à cette époque, comment raisonnait le roi, comment raisonnait la reine, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quel était leur projet, leur plan. Il faut savoir qu'à partir de 1790, le roi a déjà tout compris. Il ne veut plus de cette Assemblée nationale. Il faut savoir qu'avant de son départ, il laissera sur son bureau une déclaration qui s'appelle jusqu'à présent la déclaration à tous les Français. C'est comme ça que le roi l'a nommé.
Oui, venir, oui.
Voilà, et donc où il dénonce l'Assemblée nationale et toutes les réformes qu'elle a faites.
Ça, c'est au moment du départ, oui, très bien.
C'est un long mémoire, d'ailleurs, de 16 pages à peu près, hein, où il dénonce pratiquement toutes les réformes qu'elle a faites, y compris l'armée, la diplomatie, la justice, la réforme administrative, etc. Voilà.
Et donc ça, c'est ce que le personnel du palais découvre. Au matin de la fuite, le roi a laissé ça dans ses appartements. On a parlé d'une sorte de testament politique.
Voilà,
entre guillemets. Je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, émission qui a été préenregistrée le 16 avril. Donc il n'est pas possible d'intervenir en direct, mais vous pouvez toujours faire part de vos remarques ensuite. Et je reçois Madame Julie Chanoux, historienne, pour évoquer l'épisode dit de la fuite de Varennes. Lyon, c'était quand même très intéressant. Et sur le plan de la symbolique et aussi de la propagande, entre guillemets, politique, ça aurait été évidemment à l'avantage du roi, parce qu'on reste en France.
Ouais,
on ne peut pas évoquer la partie de l'étranger, quoi.
Ce qu'il faut savoir, que parmi les princes, et tout de suite, apparaît deux options. Ou s'adresser aux étrangers, ou vraiment rester basé sur la France et sur les possibles révoltes des Français. Et il faut savoir que Condé et Artois sont plutôt pour la solution française, intérieure, comme on dit, système d'intérieur. Et il y en a plusieurs ministres de l'entourage du roi sont plutôt pour le système extérieur. Mais il faut savoir que le système extérieur peut marcher très mal, vu que la plupart des puissances sont plutôt réjouies de l'affaiblissement de la France, ce qui était la première puissance de cette époque, notamment les puissances prépondérantes, bien évidemment. Évidemment, il y a trois puissances prépondérantes à cette époque. C'est bien sûr l'Angleterre, la Prusse et le Saint-Empire germanique. Voilà.
Oui. Bon. Lyon qui sera d'ailleurs, qui finira par se révolter après, plus tard en 1793, et qui sera
Parce que,
assiégé,
voilà.
vaincu, qui se révoltera contre la
Ouais.
Révolution.
Sauf que la révolte, malheureusement, elle sera beaucoup plus désordonnée qu'il pourrait être en 1790. Vous voyez, parce que normalement, c'est les administrateurs locaux de cette époque qui pouvaient se mettre à la tête de la révolte contre-révolutionnaire, qui pourrait d'un coup être beaucoup plus organisée et mieux marcher. D'autant plus qu'ils pouvaient être soutenus par le roi. Donc vous voyez,
Oui.
ils pouvaient beaucoup gagner d'esprit. Mais
Je vois.
malheureusement, ça n'a pas marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que les forces manquent ou parce qu'il n'y a pas suffisamment de détermination parmi les Lyonnais, mais parce qu'au sein de la famille royale, on constate des divisions. Voilà.
Ouais.
C'est à ce moment commencent des problèmes. Et généralement, avec la contre-révolution, tous les problèmes de la contre-révolution, des projets avortés, etc., ils s'expliquent non parce qu'il manque des moyens ou parce qu'il n'y a pas de détermination de la part des Français, parce qu'il y a une intrigue, systématiquement. Une intrigue soit des étrangers, soit des certains ministres qui veulent, par des raisons quelconques, souvent par l'ambition, se mettre à la tête de projets sans en avoir les moyens.
Ouais, je vois. Bon, alors, rapprochons-nous maintenant de l'épisode de Varennes. Qu'est-ce qui a décidé le roi, donc, à franchir le pas? D'abord, quelle était sa situation? Est-ce qu'il était prisonnier? Y a-t-il eu des événements qui l'ont fait, qui ont fait évoluer son opinion?
Bien évidemment, donc le roi au début réside à Versailles, comme vous savez, jusqu'à octobre 1789. Mais après les événements de 5-6 octobre 1789, où on constate beaucoup de désordres à Versailles, où la reine faillit être tuée, le roi et la reine
Lafayette, pardon, et où
voilà,
Lafayette joue un rôle
jouent
crucial, il
un
trahit
certain
le roi
rôle.
en quelque sorte.
Général Morfey, comme on le nomme, parce que il arrive avec la garde nationale à Versailles, normalement chargé de protéger le couple royal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dort. On découvre qu'il dort dans les antichambres. C'est pour cette raison qu'à partir de ce moment, on commence à le nommer général Morfey. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et il contraint ensuite le roi
De
à
partir à
aller à
Paris.
Paris.
Voilà.
Et donc
Oui.
là, c'est là où il se retourne, entre guillemets, quoi, quasiment officiellement
Voilà.
contre le roi.
Voilà, là, c'est
En tout
ça.
cas, jusqu'à un certain point, mais c'est
Avec tout
voilà,
ceci,
peu fiable, hein, de franc-maçon, peu fiable,
voilà,
le roi.
il faut savoir que Lafayette, c'est un homme suffisamment habile, assez rusé et hypocrite, très hypocrite, tout comme ses collaborateurs proches, comme les frères Lameth,
Oui, bon,
Alexandre, Théodore et Charles de Lameth.
il est très fameux, Lafayette, mais
Voilà.
c'est pas brillant, je veux dire, moralement, quoi.
Oui,
Panache,
c'est
bon.
une personne difficile, avec laquelle les relations sont difficiles, notamment de la part de Marie-Antoinette, qui le déteste. Elle n'a pas oublié son rôle pendant les événements de 5-6 octobre à Versailles. Et à partir de ce moment, elle déteste Lafayette et elle sait qu'il n'y pourra pas survivre avec cet homme. D'autant plus qu'à partir de leur installation aux Tuileries, au palais des Tuileries, c'est un vieux palais abandonné depuis des années et des années, on installe le couple royal de force. Bah voilà, Lafayette les surveille d'une manière très stricte. Et Marie-Antoinette se plaint même dans ses lettres à son frère, l'empereur, que Lafayette vient à chaque moment pour la menacer. Imaginez-vous de quelle situation elle vit. Et le roi lui-même, il est menacé systématiquement par la garde nationale qui les garde normalement, qui doit le char... normalement, il est chargé de les garder des émeutes, etc.
De le protéger
De le protéger,
et non pas de le garder comme un prisonnier.
voilà. Mais le roi n'a pas droit de sortir du palais, il est systématiquement surveillé, systématiquement il est outragé, c'est-à-dire que à n'importe quel moment dans le palais pour entrer gens de la populace, ouais, et l'insulter, ce qu'il vit à plusieurs reprises. En février 1790, déjà, on essaie de l'insulter, de tuer la reine, systématiquement. Donc, ils vivent sous une menace systématique. Donc, leur vie est en danger, pratiquement. Ce qui les force à réfléchir de plus en plus du projet de la fuite. Voilà, parce que leur situation se dégrade. Leur situation, non seulement la situation politique se dégrade, et le roi est de plus en plus privé du pouvoir par l'Assemblée nationale qui s'attribue tous les pouvoirs, en fait, du pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, mais aussi il est menacé de sa vie même. Voilà. Donc il sait que s'il n'y part pas, il sera assassiné de toute façon. Voilà.
Oui. Et alors, vous dites qu'il a compris qu'il ne pourrait plus faire, il ne pourrait plus calmer les ardeurs des révolutionnaires
non,
et leur ambition.
C'était pas possible. Et puis, il a compris aussi
plus négocié.
Que la constituante devenait de plus en plus impopulaire et qu'il sera absolument obligatoirement dépassé soit par les Jacobins, qui sont beaucoup plus forts que la constituante, sinon par les royalistes. Et donc, il préfère de rejoindre le camp des royalistes, ce qui est normal, bien évidemment. Et rejoindre son propre frère qui l'appelle.
Oui. Alors, il y a l'événement du 28 février 1791 qui a été surnommé ensuite la conspiration ou la conjuration des poignards, qui a peut-être eu un rôle, selon vous. Il y a eu un rôle dans l'opinion du roi, dans l'évolution de l'opinion du roi.
C'est également aussi, c'est les nobles qui essaient de protéger le roi.
Donc, plusieurs centaines de nobles craignent pour la vie du roi alors que des émeutes éclatent à Paris. Et donc se rendre au palais des Tuileries pour prendre la défense du roi.
Pour le protéger.
Et ça se passe très mal.
Le roi n'est pas autorisé à partir à Saint-Cloud en été, par exemple, pour voir ses propres tantes, etc. etc. Donc il est vraiment détenu comme un prisonnier. Il se sent pris en otage.
Et en avril 1791, il y a cet épisode qui a été surnommé ensuite les Pâques inconstitutionnelles. Donc on revient au problème du schisme qui a été créé par la Révolution dans le clergé catholique. Alors vous voulez nous en dire un mot ? Je pense que c'est important dans le déroulement des événements, de cet épisode de Pâques. Le roi et la famille royale veulent aller célébrer Pâques à Saint-Cloud.
Et donc on ne les autorise pas. Ne les autorise pas à sortir des Tuileries. Parce que Lafayette estime qu'il y a des projets de fuite en cours et il préfère de les garder sur sa surveillance.
Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ça n'a pas un rapport aussi avec le fait qu'à Paris, il aurait été obligé de subir des prêtres dits jureurs, tandis qu'à Saint-Cloud, il aurait pu échapper à...
C'est tout à fait possible. Donc Lafayette soupçonne tout de suite le projet de la fuite et peut-être en collaboration avec les prêtres réfractaires. Oui, c'est tout à fait possible. Bon, bien que... À vrai dire, en avril 1791, selon la correspondance de Mercier et de Marie-Antoinette, il est déjà établi un autre projet, un projet de la fuite pour Montmédy. Voilà. Sauf que la reine n'est pas encore fixée la date précise de la fuite. Et puis, elle hésite, parce que le roi aussi hésite. Est-ce qu'il part ou est-ce qu'il n'y part pas ? Le roi, il faut savoir que le roi hésite pas parce qu'il n'y part pas. Parce que c'est un homme indécis, mais parce qu'il craint de provoquer la guerre civile, qui sera aussi un profit des étrangers.
Il a toujours eu, redouté de faire couler le sang français.
C'était vraiment son
à plusieurs reprises, on s'en est rendu compte.
Et parfois,
on se dit que quelques coups de feu auraient pu épargner
un
cataclysme et des centaines de milliers de morts.
Tout à fait. Et c'est une position du prince de Condé, justement, ce qu'il dit, d'ailleurs du comte d'Artois, qui lui disent, non, vous allez, par votre inaction, vous allez provoquer une guerre civile encore plus importante. Voilà. Et en plus, le peuple sera dans une position difficile parce qu'il sera livré aux troupes de ligne. Donc imaginez-vous dans quelle situation sera le peuple. Donc le sang sera versé, et sera versé à un plus grand nombre.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, donc c'est une situation vraiment difficile. Et le roi, finalement, il se décide de partir. Sauf que de quelle manière ? Voilà, quel projet à choisir ? Qui suivre ? Est-ce qu'il faut vraiment suivre les Français, les Lyonnais, les gens du Midi, qui lui tendent les bras ? En fait, l'Alsace aussi, à cette époque, lui tend les bras. En Alsace, les insurrections éclatent aussi à partir de l'hiver 1791. Parce que la constitution civile est mise en place. Il y a les prêtres jureurs qui prennent les places de vrais prêtres. Et les vrais prêtres, qui étaient encore hier, ils étaient encore les prêtres, ils sont obligés de quitter leur paroisse et carrément quitter la France.
Oui, ou de se cacher. Donc,
voilà, ou de se cacher.
Les messes dans les bois.
Les gens n'y comprennent pas. Le serment à la constitution civile, par exemple, à Strasbourg, est prêté dans une situation morose, absolument morose. C'est-à-dire, les gens observent, ils sont obligés de venir, mais ils sont obligés de venir sous le coup des baïonnettes. Donc, voilà. Ouais.
Très bien. Écoutez.
Voilà, la situation elle est déjà explosive.
Ouais.
Le roi le comprend. D'une manière ou de l'autre, il faudra agir.
Alors voilà, avant de voir la suite, je vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un petit intermède musical. Et je vous propose donc d'écouter la chanson de Monsieur Henri, en référence à Henri de La Roche-Jacquelin, le chef de l'armée catholique et royale. Alors c'est un tout petit anachronisme par rapport à l'épisode dont nous parlons, mais nous sommes globalement dans le thème et puis nous nous retrouvons juste après, dans quelques minutes.
Sous l'effort de la tempête, quand tout son courbé le front, quand tout son courbé le front, seul le beau dressant la tête, je vous vois bien compagnons, vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. En partant pour la croisade, j'avais dit moi faible enfant, j'avais dit moi faible enfant, je serai leur camarade. Vous m'avez fait commandant, vendéen, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. S'il était là mon vieux père, lui saurez-vous commander, lui saurez-vous commander, le ciel m'enverra, j'espère, son ombre pour me guider. Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Si je fonce à la bataille, suivez mon panache blanc, suivez mon panache blanc. Si j'ai peur de la mitraille, saluez votre chef en blanc. Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi. Marchons au feu sans effroi, vive le roi. Vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Si le plomb d'un vide rebelle frappe un jour mon front meurtri, frappe un jour mon front meurtri, ami qu'une main fidèle venge le trépas d'Henri. Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, Thibaut de Chassé au micro, avec comme invité Julie Chanoux, historienne, pour évoquer la question de l'épisode connu comme la fuite de Varennes, ou la fuite à Varennes. Voilà, cette émission, je le rappelle, a été préenregistrée le 16 avril, donc on ne peut pas réagir en direct comme d'habitude, mais on peut toujours faire part ensuite de ses remarques par courrier électronique ou par courrier postal à la radio, à l'attention du Libre Journal de la France Profonde. Voilà. Alors, nous avons, je pense, assez bien précisé le contexte, en tout cas suffisamment. Le roi et la reine aussi, évidemment, ont senti que la situation n'était plus tenable et qu'ils n'avaient plus de rôle positif à jouer à Paris et que la situation était de plus en plus dangereuse pour eux et leurs enfants. Bon. Donc, ils se trouvent face à un choix. Il faut quitter Paris et les Tuileries, pour non pas pour se réfugier, mais pour reprendre le combat politique et rétablir l'ordre et la monarchie. Alors, là où nous en sommes, ils hésitent entre deux projets. Celui de l'ancien ministre Calonne, qui s'est réfugié à Londres et qui propose de gagner Lyon en passant par l'est de la France, le nord-est, hein, Lyon, ville très, très favorable, hein, sur le plan politique, mais aussi militaire, pour un tel projet. Et puis un autre projet qui consiste à solliciter l'aide d'étrangers. Alors, quels étrangers? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette deuxième piste, si vous voulez bien?
Donc, jusqu'en octobre 1790, le roi et la reine, ils n'ont qu'un seul projet. Aller à Lyon, en sortant de Paris, et en passant par l'Est, voilà, c'était le projet de Prince. Mais en octobre 1790, apparaît un autre projet, qui reprend le projet des Prince, en fait. Sortir de Paris, passer par l'Est, par la Franche-Comté, et arriver de cette manière à Lyon. Mais c'est un projet qui propose à se tourner vers les étrangers, notamment vers le frère de Marie-Antoinette, l'empereur de Saint-Empire germanique, Léopold II. Mais il faut savoir que les princes émigrés sont très opposés à ce projet, et Louis XVI aussi, parce que le Saint-Empire germanique, dirigé par les Habsbourg, est une puissance rivale. Et il existe une opinion très fortement fondée que c'est l'Autriche qui maintient les relations avec les constitutionnels, fait de facto, qui a contribué au déclenchement de la Révolution française et qui ne se nie pas vraiment dans ses intérêts à aider le roi et la reine de sortir du royaume et de rétablir la monarchie. Il cherche, à vrai dire, affaiblir la monarchie. Pourquoi les faire sortir de Paris? Et donc, au sein de la famille royale, la division éclate. Est-ce qu'il faut suivre le système extérieur ou le système intérieur? D'un côté, tout le monde se penche vers le système intérieur, qui est mieux, bien évidemment, c'est-à-dire compter que sur les Français. Mais Marie-Antoinette exprime l'opinion contraire. Elle dit que probablement les forces françaises seuls n'y souffriront pas. Donc il faut absolument obtenir l'aide et soutien des troupes autrichiennes. Bien évidemment, Marie-Antoinette, elle reste suffisamment confiante envers son frère. Il faut savoir qu'elle ne connaît pas du tout que les projets de son frère est d'affaiblir la France. Elle ne sait pas les relations, il ne connaîtra jamais elle ne découvrira les relations entre Merci, son ami, hein, qu'elle croit son ami. Et les constitutionnels, notamment avec Lafayette et les frères Lamette, qu'elle déteste. Elle les déteste et elle soutient les relations avec ces hommes, sous prétexte de les disposer à mieux agir, etc., à entrer en négociation avec la reine, etc., etc. Et donc la reine compte sur le soutien de son frère. Elle pense qu'il ne pourra pas les laisser éternellement sous le couteau, n'est-ce pas ? Et qu'aux yeux de toute l'Europe, il va se déshonorer s'il va faire ça. Et donc, elle pense qu'il est obligé de la soutenir. Et donc, elle préfère à combiner les deux projets. Vous voyez ? Car c'est une personne un petit peu hésitante, et son mari aussi, il est hésitant. Donc, il préfère de ne pas trancher, mais, disons, combiner les deux projets. Et d'un coup, ils sont obligés de se tourner vers ministre Breteuil, qui déteste Calonne. C'est un rival de Calonne et qui déteste aussi le prince de Condé. Et c'est un homme brutal, extrêmement ambitieux, mais qui possède des bonnes relations avec les Autrichiens, parce qu'il était autrefois l'ambassadeur à Vienne. Donc il a beaucoup de relations à Vienne. Et pour cette raison, il s'interpose, disons, entre le roi et la reine et les princes, avec son projet, son variant de projet, qui propose un petit peu de changer les plans, et s'adresser d'abord aux Autrichiens. Mais car les négociations avec les Autrichiens nécessitent le temps, il propose à suspendre le projet sur Lyon. Mais au même moment, il livre les noms des agents de Condé à Lafayette.
Ah.
Voilà, c'est pour vraiment suspendre le projet. Et le général de Bouillé, qui aussi va participer à la préparation de la fuite, un commandant des troupes de l'Est, il affirmera dans ses mémoires que Breteuil a fait ça exclusivement pour disposer l'Assemblée nationale et favoriser de cette manière la fuite du roi. Voilà. Et donc, de cette manière, le plan sur Lyon est suspendu, et on peut dire même annulé, avec l'arrestation des principaux agents de Condé qui opèrent à cette époque à Lyon. Voilà, et donc tout le monde se tourne vers Breteuil au lieu de se tourner vers les princes qui sont complètement écartés et qui ne sont même pas mis au courant des détails de nouveaux projets.
Ah oui, donc là c'est vraiment un tournant crucial.
C'est un tournant crucial. Et à cette époque, Condé propose carrément agir sans le roi et la reine, agir à Lyon, entraîner de cette manière les Lyonnais dans la révolte contre-révolutionnaire, parce que de toute façon il n'y a pas d'autre choix, et de cette manière entraîner le roi et la reine dans la fuite vers Lyon. Et de ne pas suivre le projet de Breteuil, parce que dès le début, il soupçonne un piège. Tout simplement, vu les personnes qui sont chargées de préparation de ce projet, de ce nouveau projet. Notamment, merci à Argenteau, qu'il connaît très bien, qui autrefois a soutenu Necker. Voilà. Et qui trompait déjà de nombreuses fois la reine, encore avant la Révolution, qui d'ailleurs à l'origine de son impopularité, parce qu'il forçait systématiquement agir Marie-Antoinette en faveur des Autrichiens. Voilà.
Et merci Argenteau.
Merci Argenteau, voilà. Et donc c'est à nouveau, il s'interpose comme ça entre le roi et les princes, c'est un étranger qui poursuit plutôt les intérêts de l'Autriche, et il lui annonce qu'il voudrait bien surcharger des négociations avec l'empereur pour obtenir les secours en troupes et en argent aussi, voilà, pour vraiment procurer le succès de la fuite. Et la reine Marie-Antoinette, car on lui propose un projet combiné, donc le soutien des étrangers et aussi l'action des Français, elle préfère ce projet et elle décide son mari à suivre ce projet. Et donc, d'un coup, le projet sur Lyon est abandonné. Le prince de Condé est obligé à partir en Alsace, qui est à ce moment au point vraiment des révoltes contre-révolutionnaires désordonnées. Marie-Antoinette suit le projet de Breteuil. Voilà. Mais encore, et ça traîne beaucoup, parce que le projet est arrêté en octobre 1990. Et ils vont attendre 10 mois pour se décider vraiment à fuir. Tout simplement parce que la position des Autrichiens n'est pas tout à fait claire. Est-ce qu'ils vont leur vraiment fournir les troupes ou non? Voilà. Oui. Et d'ailleurs, on ne sait pas, jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment pourquoi ils traînent autant. Est-ce qu'il y a encore des problèmes avec le général de Bouillé, qui est chargé de commandement de troupes de l'Est, notamment en Lorraine, et donc le rôle est clé. C'est le rôle clé qu'il doit jouer, parce que c'est lui qui doit vraiment procurer l'escorte du roi, qui doit protéger sa sortie, sa retraite, disons, de Paris. Et s'il n'est pas bien disposé, il n'est pas suffisamment favorable au projet, donc le roi ne peut pas fuir.
Oui, voilà. Le général de Bouillé, qui commande des hussards.
Voilà, qui commande pratiquement toutes les troupes de l'Est.
Bon, très bien. Alors ensuite, les choses sont obligées d'avancer.
Voilà. Donc, on arrive en juin 1791, et finalement, le roi, sous l'impact d'autres événements, est obligé à se décider à fuir. Et finalement, il choisit le jour, le mois propice pour la fuite, le 20 juin 1791, pour finalement de sortir des Tuileries. On peut aussi se poser la question, pourquoi il choisit ce jour-là?
Pourquoi est-ce le moins propice alors?
Pourquoi c'est le moins propice? Oui. Parce que fin juin, les nuits sont les plus courtes de l'année, n'est-ce pas? Et donc les fugitifs ne peuvent pas bénéficier de l'obscurité qui normalement doit leur être favorable. Donc pourquoi il fuit le 23 juin, on ne sait pas. On ne sait pas expliquer pourquoi vraiment la fuite est arrêtée finalement en juin. Est-ce que parce que la situation du roi se dégrade encore plus, parce qu'il est à nouveau outragé? Est-ce que parce que la reine, elle craint vraiment qu'elle n'y pourra plus tenir? Est-ce que parce qu'elle est vraiment attirée par la situation en Alsace? En effet, il y a des projets élaborés par Condé en Alsace à cette époque qui sont vraiment favorables au couple royal. Et parce qu'il y a de plus en plus de provinces qui sont prêtes à se déclarer en faveur du roi et de la reine. Et il se peut que ça les gêne qu'ils ne peuvent pas utiliser la situation si favorable. Oui. Donc, finalement, ils choisissent ce jour-là pour fuir. Mais pour sortir de Tuileries, il faut vraiment être quand même assez astucieux. Il faut savoir qu'à cette époque, Tuileries, c'est un très grand palais, très ancien, qui est composé des labyrinthes des appartements. Et pour sortir de ce labyrinthe, il faut vraiment être assez malin. Et le roi et la reine sortent séparément de leurs appartements. Ou à n'importe quel moment, un piège peut surgir. Il sort déguisé. Le roi est déguisé en valet de chambre, la reine aussi. Et donc, ils sortent chacun à leur tour. La sœur du roi, Madame Elisabeth, aussi quitte ses appartements. Et finalement, les fugitifs se rencontrent à la place du Petit Carousel où Fersen les attend.
Ah, le comte de Fersen.
Voilà.
Qui va jouer un rôle important. Mais qu'est-ce qu'il fait là, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est lui qui les attend là?
Il faut donc savoir que le comte de Fersen, c'est quelqu'un qui était chargé par le baron de Breteuil, qui le connaît depuis longtemps, qui c'est lui qui l'a présenté à la reine. Et voilà, on peut le considérer comme un homme de Breteuil. Voilà.
Ah,
et voilà. Et donc c'est lui qui était chargé de maintenir les communications avec le baron de Breteuil, d'un côté qui réside à Soleur, en Suisse, et avec le comte de Mercy qui réside à Bruxelles. Donc ni l'un ni l'autre ne peuvent pas venir à France, alors que Fersen est beaucoup plus libre, et il fait systématiquement des voyages entre les Tuileries, Bruxelles et Soleure. Voilà. Et c'est lui qui maintient en fait les relations avec Marie-Antoinette et le roi. Et c'est lui qui écrit les lettres chiffrées, les lettres écrites en encre blanche, etc. C'est lui qui fait tous les préparatifs. Et c'est lui qui loue la fameuse berline, le carrosse, qui va amener le roi et la reine vers Varennes.
D'accord. Voilà. Bon, Fersen, qui est très proche de la reine, hein, bon, on le sait maintenant, et depuis quelques années, il y a des lettres qui ont été trouvées et décryptées. Il y a une sorte de passion amoureuse entre les deux, on ne sait pas jusqu'où c'est allé, mais en tout cas, une grande proximité. Je ne sais pas, est-ce que ça. Je dis ça pour savoir, est-ce que selon vous, ça a un rôle dans le déroulement des événements et dans la place qu'il vient occuper là, dans ce projet ?
Je pense que oui, de la part de la reine, en tout cas, la reine lui fait confiance, ça c'est sûr. Et c'est lui qui a joué un rôle dans l'acceptation du projet de Breteuil. C'est lui qui a présenté le projet de Breteuil.
Le douteux Breteuil, comme on l'a vu.
Voilà, ouais. Et donc parce que la reine, parce qu'on a jugé apparemment que la reine lui fera confiance, tout simplement. Parce que la reine ne fait pas tellement confiance à Breteuil, bon, il le connaît, il sait qu'il était plutôt respecté et estimé à la cour de Vienne. Donc c'est une raison de plus pour s'intéresser à Breteuil. Mais la reine n'aime pas tellement Breteuil parce qu'il est réputé au caractère brutal et ambitieux. Alors que Fersen, son cher Fersen, comment il peut le refuser ? C'est quand même plus difficile à refuser à Fersen,
oui,
n'est-ce pas ?
Il aurait été... Voilà. Placé là peut-être à dessein. Oui.
À dessein, peut-être un petit peu
peut-être.
Manipulatoire.
Oui.
On n'y sait pas. En tout cas, c'est lui qui loue la fameuse berline. Mais il faut bien savoir aussi que Fersen n'est pas si pur qu'on le présente généralement. Généralement, on le présente comme un chevalier fidèle de la reine. Il faut savoir que selon le biographe de Fersen, c'est quelqu'un qui c'est un homme ambitieux qui entretient des maîtresses. Notamment, par exemple, à cette époque, il a une maîtresse à Paris qui s'appelle Eleanor Sullivan, femme de certaines Crawford, qui est un riche écossais et qui est lié avec le gouvernement britannique, mais aussi avec le comte de Mercy. Donc voilà. Et c'est lui, normalement, qui prête 300 000 livres en argent pour louer la fameuse berline. Et c'est dans la cour de l'hôtel de Crawford que la berline est stationnée pendant quelques jours.
Ah.
Il faut savoir que, par exemple, la nuit du 18 juin, Fersen passe chez Eleanor. Alors que Crawford, à cette époque, est absent. Après, il revient à Paris, le 19 juin. Et à cette époque, Eleanor, qui a un entretien à Fersen, il peut lui raconter tous les projets de la fuite. Et par la suite, il part à Londres. Puis il revient à nouveau. On peut vraiment établir tous ces déplacements.
Oui.
Et vous savez qu'à Londres, il y a Pitt qui hésite à cette époque. Hein, est-ce qu'il soutient la révolution ? Est-ce qu'il soutient la contre-révolution ? Il n'y sait pas encore. Hein, donc, il n'est pas se décidé. Donc, il se peut qu'entre dans ses intérêts aussi d'empêcher le roi et la reine de fuir. Alors, ouais. Donc, vous voyez que par cette voie, déjà, on peut organiser la fuite d'informations. C'est, pour le moins, c'est imprudent.
Ah oui.
Dans une affaire de cette importance, c'est capital, n'est-ce pas ? C'est quand même imprudent de confier les informations à Madame Sullivan, à Crawford, à l'ambassadeur de l'Angleterre avec lequel Crawford maintient donc des relations, et voilà, Crawford lui-même, tout simplement.
Voilà. Mmh.
Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Déjà, on peut se demander... s'interroger pourquoi la berline est louée, pourquoi une carrosse si chère est louée par Fersen, parce que c'est lui qui choisit la carrosse avec Crawford. Pourquoi il n'est pas choisi une diligence rapide et légère, comme c'était proposé par Calonne d'ailleurs. Calonne insistait beaucoup dans ses lettres au roi qu'il faut une diligence légère et rapide, une voiture en fait, très rapide qui les amènera rapidement vers les frontières, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas parce que le roi voulait partir avec sa famille groupée, plus, je ne sais plus, des gouvernantes ou des nourrices. Enfin
ça ne changerait rien.
Un noyau important.
Une diligence rapide et légère n'y pourrait pas empêcher au roi de rester en présence de sa famille. Et en plus, on n'y sait pas quelle était vraiment la volonté du roi. Est-ce que le roi vraiment voulait rester collé à sa famille ou c'est plutôt Marie-Antoinette qui voulait coller au roi parce qu'il était impopulaire et il a eu peur que si il est arrêté, il sera assassiné. Alors qu'en présence du roi, qui était beaucoup plus populaire, qui était aimé, il savait qu'il restera en vie. Donc, alors, il fallait bien évidemment privilégier le départ du roi à cheval Et le départ de sa famille dans une carrosse beaucoup plus légère et plus facile à déplacer.
Ouais. Oui, je vois.
Voilà. Alors que la berline, déjà la berline, elle est lourde, le train est lourd, difficile à mener. Il faut beaucoup de chevaux. Chaque fois, il faut changer. À chaque heure de poste, il faut changer les chevaux. Donc, il faut beaucoup de chevaux. Et puis, la berline, tout simplement, c'est un carrosse qui attire l'attention. C'est cher et c'est rare. Ah oui. Voilà. Mon justifie ce choix par la présence des étrangers dans la carrosse. Parce qu'il faut savoir que la gouvernante des enfants de France, Madame de Tourzel, est habillée en une baronne allemande. Et voilà. Mmh. Et la berline, c'est un carrosse allemand. Et donc, on justifie de cette manière le choix de la berline. Voilà.
Alors, les participants avaient des... Comment dire, de faux passeports, c'est ça
ils ont des faux identités, passeports, voilà. Ils sont déguisés. Voilà. La gouvernante des enfants de France, Madame Tourzel.
La marquise de Tourzel. Oui.
La marquise de Tourzel, donc elle est, c'est elle qui est propriétaire de la berline, etc. etc.
Oui,
ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Voilà.
Ah oui. Oui, oui, très bien.
Et donc le roi, il suit sa route. Au début, tout paraît réussir. Hein. C'est Fersen qui conduit la voiture. Tout paraît réussi jusqu'à Chalon-sur-Marne. Elle se dirige sur Chalon-sur-Marne, ce qui est normal. Une nuit suffit pour arriver à Chalon, mais c'est à Chalon qu'il manque l'escorte des troupes qui leur était promis. Mais bon, ce n'est pas très grave.
L'escorte n'est pas là, c'était celle qui devait être fournie par le général de Bouillet.
Voilà, ouais. Le général détachement des dragons, en fait, qui doit être fourni par un général de Bouillet, qui doit être commandé par le comte de Choiseul et par le comte de Dama. Ce sont des personnes plutôt fidèles, comme je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Marie-Antoinette a décalé à une journée le départ et ça les a perturbés. Ils ne pouvaient pas rester avec leurs troupes dans l'endroit fixé, et donc ils étaient obligés de partir. Et car personne ne les a pas prévenus, on peut aussi se demander pourquoi. Parce que normalement, les plans qui sont bien préparés prévoient toujours une sortie de secours. Même s'il y a des imprévus, on prévoit toujours des secours, vous voyez, des plans de secours.
Oui, oui,
et il n'y en a pas. Voilà. Et donc, à partir de Chalon, le roi commence un petit peu à être angoissé. Il commence à dire, tout le monde me manque. Il y a des choses qui manquent, vous voyez.
Oui.
Donc, à partir de Chalon, les choses se dégradent un peu. Mais pas tellement. Et finalement, il arrive, il continue leur route, il arrive à Saint-Méniold, où probablement il est reconnu par la population, mais
oui, c'est quasiment... Et tout ce qu'on retient, c'est l'épisode d'un habitant de Saint-Méniold qui le reconnaît sur
un metteur de poste,
une pièce de monnaie.
Voilà, mais ça aussi, on peut s'interroger ce que c'est vrai ou non. Bon, généralement, on a propagé cette version de fait, quoi. Mais il se peut que c'était propagé par Lafayette exprès pour attirer les chercheurs sur une fausse piste, tout simplement. Voilà.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Voilà, et donc, le roi est finalement arrêté à Varennes.
Oui.
Pourquoi ? C'est compliqué. Donc, il faut savoir que pour expliquer l'arrestation du roi, il faut se tourner vers les activités ou les actions de Lafayette et de l'Assemblée nationale. Donc, le 21 juin, très tôt le matin, Lafayette, avec sa garde nationale, découvre le départ du roi et de la reine, avec leurs enfants et avec la sœur du roi.
Voilà, et la lettre explicative.
Voilà, la lettre explicative du roi.
16 pages. Oui.
Mais est-ce qu'il l'a fait lire à l'Assemblée nationale? Parce que le roi explique pourquoi il est parti. Non, il ne le fait pas lire. Il présente cette fuite comme un enlèvement du roi. Ce qui prive le roi de la parole publique. Parce que le roi a compté que son mémoire sera lu. Et Lafayette, de cette manière, donc, représente la situation en fait, politique comme un accident, comme un simple accident sans gravité. Il demande aussitôt tous les gens qui peuvent remarquer les fugitifs sur la route de Chalon de annoncer ça à Lafayette. Pas parce qu'il veut les arrêter, mais tout simplement parce qu'il existe un enlèvement du roi. Est-ce que vous voyez déjà une manipulation, quoi. Voilà. Le mémoire du roi sera lu finalement que le 22 juin, très tardivement à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on n'explique pas tout de suite aux Français qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la rupture? Parce que Lafayette, manifestement, veut cacher la rupture entre le roi et l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale est en fait légitime que par la présence du roi dans son sang. Parce que on se souvient que les États généraux avaient les pouvoirs limités, qu'ils n'avaient pas le pouvoir constituant.
Oui, bien sûr.
Non, c'est pas. Et donc, c'est que parce que le roi a approuvé la transformation des États généraux à l'Assemblée nationale qu'elle est légitime. Si le roi rompt avec cette Assemblée, donc elle perd toute sa crédibilité.
Oui, en tout cas, elle perd largement sa légitimité.
Pratiquement tout. Et les Français, il était aussi, il faut savoir qu'il était un petit peu trompé par cette présence du roi au sein de l'Assemblée nationale. Il croyait que les réformes qu'elle a faites et la transformation en Assemblée nationale est approuvée par le roi. Mmh. Alors que là, la
fuite. Il a quand même signé un certain nombre de documents.
Oui, mais il était forcé, il était pris en otage, etc. Il comptait quand même à s'adresser aux Français, hein, une fois libre.
Oui.
Pour expliquer tout ceci, des outrages qu'il a reçus, la pression qu'il a eue, voilà, etc., etc. Donc il a dénoncé toutes les actions et l'activité de l'Assemblée nationale. Ce qui, bien évidemment, n'est pas dans les intérêts de Lafayette.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais est-ce que c'est dans les intérêts des Autrichiens aussi qu'il dénonce l'Assemblée nationale, hein? On se souvient que Kaunitz écrit dans une des lettres à Léopold II que la constitution élaborée par la constituante est mauvaise. Mais il admet que oui, si même si elle est mauvaise, elle n'est mauvaise que pour la France, mais pas pour l'Autriche. Parce que tout ce qui est mauvais pour la France, c'est bien pour l'Autriche, parce que ça affaiblit la France. Donc,
c'était une vision à court terme, comme on le verra par la
bien
suite.
Bien évidemment. Mais à cette époque, Kaunitz s'est persuadé qu'il faut vraiment affaiblir la France. Et est-ce que c'est vraiment dans ses intérêts de laisser le roi et la reine partir? On peut s'interroger.
Eh oui.
En tout cas, on se souvient que les secours en troupes et en argent leur étaient promis. Et de nombreuses fois, Léopold II a réitéré cette proposition. Il a même affirmé la reine en avril, après en mai. Il a confirmé à nouveau que dès que le roi et la reine sortent de France, il leur fournit l'argent et les troupes. Et que même il peut soutenir leur fuite au moment de sortie de Paris, par les troupes aussi. Et qu'il autorisera aussi, aussitôt, les Suisses à marcher sur Lyon, à soutenir aussi les Lyonnais, les Espagnols aussi, ils pourront marcher et soutenir les insurgés dans le midi de la France, etc., etc. Donc on leur promit vraiment tout, quoi. Vous voyez ? C'est pour ça qu'ils choisissent ce projet. Mais au moment donné, au moment quand le roi et la reine arrivent à Varennes, il faut savoir que c'est une petite ville, un village en Argonne, qui se trouve seulement à cette époque à 3 lieues de la frontière belge des Pays-Bas, où l'empereur entretient à peu près 30 000 troupes autrichiennes, il n'y a aucun mouvement qui est fait à leur faveur de la part des Autrichiens. Et on découvre rapidement pourquoi. En lisant les lettres de merci qui sont écrites à la veille de la fuite, le 16 juin, c'est-à-dire 5 jours avant la fuite, il prévient Léopold que la sortie du roi et de la reine est imminente. Et que surtout pas, il ne faut pas les soutenir par les troupes autrichiennes. Pourquoi ? Il motive ça par le danger que la présence du roi et de la reine, même momentanée, dans les Pays-Bas, peut présenter pour les Pays-Bas. Parce que dans les Pays-Bas, à cette époque, il y a aussi des révoltes démocrates. Et il dit que voilà leur sortie, leur présence, pour faire revivre ces révoltes, tout simplement. Bah, il tout simplement mobilise il fait appel à un point sensible de Léopold II, qui n'aime pas les révoltes aux Pays-Bas. Et il motive tout ceci par cette nécessité d'écarter les révoltes aux Pays-Bas et donc laisser le roi et la reine dans les mains de leurs joailliers, tout simplement. Alors qu'il y a encore quelques jours, il a proposé pratiquement ouvertement à la reine les secours et le soutien des troupes. Il a, à la veille de la fuite, il déconseille à Léopold de les soutenir, tout simplement. Et tout ceci au moment que le roi et la reine sont arrêtés. Ils sont arrêtés à Varennes et il y passe encore quelques heures. Et si les Autrichiens se disident, ils peuvent les libérer.
Oui. Et même sans les Autrichiens, est-ce que Les troupes du général de Bouillé n'auraient pas pu intervenir plus efficacement?
Ça, c'est un sujet à question. Disons, le général de Bouillé et son comportement, il est un petit peu ambigu. Il faut savoir que c'est un cousin de Lafayette, qui n'est pas son cousin, qui était chargé de commandement de l'Est à la demande de son cousin, mais après il se brouillait avec Lafayette, donc avec son cousin, et il est plutôt favorable à la sortie du roi et de la reine. Il assure dans ses relations de la fuite du roi qu'il est arrivé avec ses dragons à Varennes, au moment que le roi et la reine étaient arrêtés et qu'ils sont maintenus encore dans cette ville, et il a retrouvé tous les ponts rompus. Donc, il n'a pas pu arriver à l'heure pour les libérer. Et après, pour les libérer, c'était déjà trop difficile parce qu'il était entouré de troupes déjà fidèles à l'Assemblée nationale. En fait, c'est...
Oui, nombreuses.
Voilà. Oui. C'est sa version de fait. En effet, Mercier aussi, il maintient cette version de fait. Il assure qu'à Varennes, tous les ponts étaient rompus. Et on peut aussi se demander, si c'est vrai, pourquoi les ponts étaient rompus si vite. Imaginez-vous, le roi et la reine sont arrêtés et déjà dans quelques minutes, tous les ponts sont rompus. Pour rompre les ponts, il faut quand même un certain bout de temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout c'était prévu d'avance? On constate aussi tout ceci sur la manière d'agir de Lafayette. Il agit avec beaucoup de célérité, hein, de le début. C'est-à-dire comme s'il était prévenu. C'est comme s'il savait.
Il envoie tout de suite des messagers.
Il envoie tout de suite des messagers.
Il est là pour prévenir de.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des témoignages. Hein, par exemple, de Théodore de Lamette, qui était le bras droit de Lafayette. Sous la Restauration, en 1822, il a écrit ses mémoires où il a affirmé que, oui, les constitutionnels de cette époque, Lafayette, il a connu le projet de la fuite. Il a affirmé lui-même. Ils ont connu les projets de la fuite et parce qu'ils ont eu des relations au-delà du rang. Tout simplement. C'est-à-dire en Autriche. Ouais. Au-delà du Rhin, je suppose que c'est qu'en Autriche. Hein, parce que le Rhin sépare la France et l'Allemagne. Et voilà. Il n'y a que l'Autriche qui pouvait savoir. Donc c'est les Autrichiens qui ont fourni en fait les informations aux constitutionnels, à Lafayette, pour que le roi et la reine sortent du palais pour qu'ils se compromettent de cette manière, pour qu'ils soient arrêtés d'une manière violente. Réinstaller de force aux Tuileries pour pouvoir leur imposer aussitôt la constitution de 1791 élaborée par la constituante. Et cette version de fait aussi se confirme par la présence de Barnaf dans la carrosse du roi et de la reine sur le chemin de retour. On trouve en fait Barnaf et Pétillon, maire de Paris, envoyés par la constituante pour accompagner les captifs, déjà, ce n'est plus des fugitifs, ce sont des captifs à Paris. Leur retour à Paris est affreux, sous le cri de la foule déchaînée. Ils traversent Argonne révolutionnaire. Argonne est révolutionnaire à cette époque. Et donc, et Barnaf propose, à ce même moment, encore dans la carrosse de la reine, il propose un marché. Voilà, le roi signe la constitution, qu'il refuse de signer, parce qu'elle est mauvaise. Il installe des désordres, c'est une source de troubles constants. Il signe cette constitution, mais en échange, les constitutionnels obtiennent que le roi n'y soit pas du chou, qu'il garde la couronne sur sa tête. Bon, la couronne un petit peu virtuelle, quoi, qui est devenue de plus en plus vide de sa substance, mais il garde quand même la couronne et surtout la vie. Voilà. Et c'est de cette manière qu'ils vont agir tout au long de 1791 et 92, ce qui amènera finalement à l'arrivée au pouvoir des Jacobins, qui d'ailleurs aussi savent les projets du roi et de la reine, parce que Mirabeau, il était mis dans les confidences. Mirabeau, c'est un Jacobin. Bon, même si Jacobin est mort, mais les Jacobins de son entourage, je pense qu'ils savaient aussi les projets. Ils pouvaient, en tout cas, ils pouvaient savoir, parce que par ces relations, il pouvait transmettre tous ses projets. En tout cas, il maintient les relations avec certains comtes de Lamarque, qui est un homme de confiance de Mercy, et qui maintient à son tour les relations avec le duc d'Orléans. Ce que Marie-Antoinette ignore.
Ouais.
Vous voyez, autour de cette fuite, il y a beaucoup, beaucoup encore de secrets qu'il faut encore percer.
Oui.
Ou élucider, si vous voulez.
Oui.
Voilà.
On parle souvent d'une succession, d'une accumulation de malentendus, de malchance, etc. Mais il y a probablement d'autres choses, effectivement.
Il y en a un petit peu beaucoup de successions, oui, de malchance. Je peux admettre que, par exemple, le comte de Damas ou le comte de Choiseul ne pouvait pas escorter le roi et la reine à Chalon. Ça, je peux admettre. Mais pourquoi, après, tout s'enchaîne comme ça, de cette manière? Et pourquoi Lafayette agit d'une manière si rapide, avec cette célérité? Et pourquoi il mise en place une mise en scène avec l'enlèvement du roi? Ça, c'est inexplicable. Il y a encore beaucoup d'autres petites nuances qui sont inexplicables. Et surtout, ce comportement de merci qui déconseille à soutenir le roi et la reine au moment que leur fuite est déjà engagée. Imaginez-vous. Alors qu'il sait bien que si les Autrichiens ne soutiennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont livrés carrément au mal des révolutionnaires. Et tout ceci au moment que le comte d'Artois, qui découvre enfin le projet de la fuite que son frère a fui, il arrive à Bruxelles et il réclame une déclaration de la part de l'Autriche qui aurait réclamé une libération pure et simple du roi et de la reine. Et voilà, Merci lui refuse une telle déclaration. Il lui dit non, il faut un concert de toutes les puissances d'abord, alors que c'est que le concert de toutes les puissances en faveur du roi et de la reine est difficile à établir. L'Angleterre, se positionne à cette époque, il se positionne sur la situation neutre. Il préfère de garder la neutralité. L'Espagne aussi. L'Espagne ne veut pas trop intervenir par des raisons quelconques, par des mille raisons difficiles à expliquer, mais il y en a des raisons pour que l'Espagne n'intervienne pas. Et Merci le sait parfaitement. Et pourtant, Il dit que voilà, il faut un concert de toutes les puissances, il faut d'abord réunir un congrès de toutes les puissances, il faut attendre, il ne faut pas surtout agir trop vite parce que vous allez livrer le roi à la colère populaire, etc. Et vous allez l'exposer, etc., etc. Et donc finalement, il repousse la libération du roi alors que la situation demande de l'urgence. La situation est urgente.
Ah oui, bien sûr. Voilà.
Donc, d'un coup, c'est plutôt une position attentiste, quoi, qu'il impose. Il impose ça à Léopold, mais aussi à Artois.
Mmh.
Voilà.
Oui, oui.
Voilà, donc de ne rien faire. Finalement, de ne rien faire. Ni vous mêlez pas dans les jeux, quoi, ni agissez pas. Adoptez la position inactive, ouais, et attendez. Voilà. Ouais, attendez qu'on coupe la tête au roi.
Attente fatale, voilà.
Voilà.
Il sera tragique ensuite pour quasiment tout le monde. Oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Julie Chanou. Je précise pour les auditeurs que votre nom s'écrit C-H-A-N-O-U-X. Voilà, vous êtes historienne. Merci beaucoup d'avoir avec nous un peu reprécisé les choses et développé notamment les aspects peu connus, hein, de cet épisode, connu comme la fuite à Varennes, qui est un tournant, un point de bascule dans la Révolution française.
Parce que à partir de ce moment, donc pour les Français, pratiquement pour tous les Français qui doutaient encore, tout devient clair. Même si le roi revient à Paris, il est obligé à nouveau à traiter avec l'Assemblée nationale, tout devient clair. Le roi a cherché à rompre avec l'Assemblée nationale. Et c'est à partir de ce moment que l'immigration devient vraiment forte. C'est-à-dire que tout le monde tourne le regard vers les frères du roi. Il faut savoir que le comte de Provence a réussi sa fuite. Il est arrivé sans difficulté à Mons, par des raisons que je n'y pourrais pas vous expliquer. Personne ne l'a pas dérangé pendant sa fuite. Il a fui séparément. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc, il s'est déguisé aussi. Il est arrivé rapidement par Maubeuge et par Mons, toujours en Belgique. Et personne n'a pas dit que voilà, sa présence va déranger les Pays-Bas et que sa présence va déclencher les révoltes dans les Pays-Bas.
Mmh.
Donc voilà. Donc il est arrivé tranquillement à Mons, puis à Bruxelles, où il a rencontré son frère, le comte d'Artois, qui le rejoint. Et donc, à partir de ce moment, les deux frères vont à Koblenz, où il y a déjà une migration assez importante des officiers français. Et à partir de ce moment, l'immigration devient très, très forte, parce que pratiquement tous les nobles sortent du royaume. Jusqu'à présent, ils ont encore douté. Est-ce que le roi est pour la révolution ou contre la révolution? On n'a pas compris. Hein. Mais à partir de sa fuite, tout est clair.
Oui.
D'une manière ou de l'autre. Donc, c'est d'une manière ou de l'autre un événement majeur pour la fin du 18e siècle.
Ce sera aussi une aubaine pour les partisans les plus radicaux de la Révolution.
Bien sûr. Et ce qu'ils ont cherché
en matière de propagande ensuite,
pour
faire avancer les choses et se débarrasser, voilà, de la monarchie.
Voilà. Oui. Et vous savez que j'ai eu l'impression, en lisant les notes de Merci, qu'ils cherchaient à obtenir cette aubaine. En tout cas, en 1793, dans sa lettre secrète à Kubenzel, vice-chancelier de l'Empire, il reconnaît que celui qui a proposé, qu'il a diffusé beaucoup d'argent pour obtenir la situation qu'on observe en France en 1793. Voilà.
Mmh. Voilà. Ah oui.
Ouais. Avec le comte de Mercier, rien n'est pas clair. Il faut encore étudier ouais. son activité, surtout pendant les années révolutionnaires. Il reconnaît aussi beaucoup d'autres choses dans cette note. Je ne veux pas vous dire tout, mais bon, parce que cette note est très très longue. Mais bon, il reconnaît énormément de choses et il semble que c'est lui qui était à l'origine de certains projets qui se sont retournés contre le roi et la reine. Ouais. Mmh. Ouais. Et qui ont favorisé les Jacobins. Et à mon avis, il était tout à fait conscient de ce que son action favorise les Jacobins. Voilà. Il se peut que dans les intérêts de l'Autriche, entrer. Aussi l'arrivée au pouvoir des Jacobins. Voilà.
Bon. D'accord. Et puis alors pour terminer, puisqu'il nous reste quelques minutes, on sait que l'histoire, l'historiographie et le vocabulaire sont des champs de bataille idéologiques et politiques. Et cette expression commune et répandue de fuite à Varennes ou fuite de Varennes, elle n'est pas neutre. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une autre désignation, disons plus impartiale ou plus objective pour cet épisode, puisque quand on parle de fuite, il y a une connotation un peu négative, hein, un peu honteuse, un peu coupable, hein, celle du fuyard. Le roi lui-même parlait de son voyage à Montmédy, qui était l'objectif, hein, qui n'a pas pu être atteint. Ça s'est arrêté à Varennes, donc pas très loin, mais le roi parlait de voyage à Montmédy, mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'employer un autre terme pour peut-être avec un peu de chance faire changer l'expression commune plutôt que de fuite à Varennes? Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable, plus judicieux et plus vrai tout simplement de parler d'évasion ou d'échappée ou d'expédition à Montmédy?
On peut en
parler évasion.
D'une sortie. Généralement, je raconte le mot sortie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il sort de Paris, tout simplement, qu'il ne quitte pas Paris, il sort parce qu'ils ont envie de sortir, tout simplement, parce que le roi a droit de sortir, en fait, et de revenir, n'est-ce pas?
Oui, ça fait un peu penser à une promenade.
Voilà, c'est ça. Ça fait penser à une promenade, en fait, un petit peu sous contrainte, quoi. Mais bon, c'est une promenade. Mais en aucun cas, il ne parle pas de la fuite. De la fuite, on parle beaucoup plus tard.
On commence à parler beaucoup parce qu'il y a un enjeu, c'est un terme chargé, voilà, il y a des enjeux derrière.
Voilà,
c'est le vocabulaire révolutionnaire, grosso modo, parler de fuite.
Voilà, c'est ça.
Je pense qu'il faudrait proposer autre chose. Voilà, je laisse ça à l'appréciation des auditeurs et à leurs suggestions. Voilà, mais écoutez, nous allons nous quitter tranquillement. Est-ce que c'était très intéressant, hein. Merci beaucoup. Je pense que les auditeurs seront de mon avis.
Merci d'avoir m'invité.
Il faudra trouver peut-être un moyen de mettre tout ça par écrit un jour. Hein. Voilà.
À ce moment, je suis en train donc de soutenir ma thèse. C'est un petit peu difficile parce qu'il s'agit de la Sorbonne, donc il faut que la Sorbonne accepte tout ce que j'avance. J'avance encore beaucoup d'autres choses. J'ai décrit encore les projets des princes en Alsace, au Midi de la France, etc. Et puis, bien au-delà, qu'est-ce qu'ils font après 1792, 1793? Parce qu'il faut savoir qu'après l'échec de la campagne de 1792, c'est le prince de Condé qui reste vraiment seul aux affaires. Les princes frères du roi sont écartés à cause de cet échec de cette campagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté trop sur les étrangers. Mmh. Et tout ceci malgré les avertissements de Condé. Seul Condé qui a pris vraiment les distances vis-à-vis de la politique de ces princes. Il reste à la tête d'un groupe d'émigrés, de quelques milliers d'émigrés, 5000 émigrés donc, qui restent autour de lui, qui forment la future armée du rang. Il va encore élaborer beaucoup de projets, y compris à la faveur de la Vendée. Voilà. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard, en 1793, 1794. Voilà.
Bon, très bien. Écoutez, voilà peut-être une occasion de vous réinviter à ce micro. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Julie Chanou, d'être venue. Merci, chers auditeurs, de votre attention et de votre fidélité. Et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassé, émission préenregistrée le 16 avril 2026, diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 30 avril de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.